tous ensemble. On a réussi malheureusement pas à foutre les deux genoux à terre à Continental. On a réussi à leur faire mettre un genou à terre. Et l'État aussi, on a réussi à lui mettre un genou à terre. Ils ont compris que la détermination des Contis qui se passe encore aujourd'hui, 10 mois après l'accord, vous êtes encore là, les Contis, encore au moins 500 Contis aujourd'hui, plus les autres. Ils ont compris qu'on ne lâcherait rien, que notre force, celle qui a fait gagner, et la solidarité, et tout ce qui se passe aujourd'hui, ici.
Bonjour Daniel et bonjour les AMSG, c'est-à-dire les auditeurs modestes des super géniaux. Je suis Jean-Marie dans le Var, je suis patron d'une TPE et je ne cautionne surtout pas les décisions et les idées du MEDEF. Je n'ai pas, comme Laurence Parisot, rêvé d'avoir une petite entreprise ou une petite et moyenne entreprise ou une multinationale. Moi, je rêve dans les bras de ma femme, je rêve en écoutant Jean Ferrat chanter Aragon. Je rêve en tenant mon petit-fils par la main ou en écoutant mes enfants. Donc je suis complètement ahuri d'entendre qu'une femme comme elle, ou même que ce soit un homme, ça serait exactement la même chose, tenir des propos comme ça. Non, notre rêve, c'est pas l'argent. Non, c'est pas nécessairement l'argent et surtout pas moi. Et chaque fois que j'ai affaire à l'union patronale, par exemple dans le Var, ou une réunion des créateurs, eh bien, systématiquement, on retrouve le MEDEF, le logo du MEDEF, toujours pour qu'on puisse éventuellement adhérer à ce syndicat-là. Je n'adhérerai jamais au MEDEF, surtout pas, et je ne veux surtout pas rejoindre ce groupe-là. Et si je peux encore embaucher des personnes, ça sera dans l'esprit de pouvoir bien les payer, et même si des fois je les paye un peu plus que moi, ça n'est pas grave. Petit détail, le pouvoir de vivre à la place du pouvoir d'achat, ben c'était moi aussi. Donc elle m'a mis une grosse colère, Laurence Parisot. Bonne journée à tous, Jean-Marie dans le Var, et puis bon courage pour ceux qui triment pour le MEDEF, justement.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. Voilà, encore une fois de plus, on veut supprimer les cours d'histoire en terminale. Alors une petite histoire, j'ai ma copine qui fait des études, qui est algérienne. On lui a rendu un devoir en lui disant que son français était moyen. Elle a donc rappelé qu'elle n'était pas française mais algérienne et qu'elle venait juste d'arriver en France. Et en précisant bien qu'elle avait fait son enseignement en arabe en Algérie. Et on lui a dit, mais attendez madame, vous êtes algérienne, vous êtes française. Donc je pense qu'un petit rappel de l'histoire serait pas mal pour nos concitoyens. Voilà, bah écoutez, salut les AMG, à bientôt et le combat continue.
Salut à tous, une annonce pour le Café Repère Sud à Saint-Louis-de-la-Réunion. Rendez-vous à l'îlot à 20h le mardi 13 avril pour une projection suivie d'un débat sur l'après-capitalisme. Merci à l'équipe et à tous les AMG. Salut.
Oui, allô le répondeur. C'est juste pour annoncer aux auditeurs de France Inter qu'il y aura le dimanche 11 avril, donc ce week-end, à la Bourse du Travail de Saint-Denis, les états généraux de l'islamophobie, avec donc sur une série de conférences avec beaucoup d'intervenants comme Alain Grèche, Ilham Moussaïd, la candidate du NPA, Thomas Deltombe, un chercheur français qui a travaillé sur le thème de l'islam en France, Medine, un rappeur et président de l'association Don't Panic I'm Muslim, et beaucoup d'autres intervenants. Donc ça a lieu à 13h30 à la Bourse du Travail de Saint-Denis, au métro Porte de Paris.
Bonjour à tous et merci pour les analyses. Alors du coup j'avais un petit conseil lecture par rapport aux architectes et leur rapport avec le pouvoir. Il s'agit de Architecture et Altermondialisation, qui vient de sortir aux éditions L'Armatan, qui parle aussi de plein d'autres choses, comme notamment de la capacité à allier le moderne et les différentes cultures. Voilà, comme quoi il n'y a pas de voie unique dans la vie et que tout est possible à imaginer. Donc voilà, un petit livre à lire pour en savoir plus si vous intéressez à l'architecture et pourquoi pas à l'altermondialisation. Merci à tous, c'était Mouche à Nantes.
Hier 7 avril, la Haute-Savoie a vécu un nouvel assaut d'aiglières. Des dizaines de quarts de police, des rotations d'hélicoptères, des carrefours sous contrôle. Tout ça pour un hommage présidentiel aux résistants. Au même moment, des paysans auditionnés en gendarmerie pour avoir refusé un travail obligatoire. La vaccination imposée par les services de l'État, mais inutile, et ces nouveaux dictateurs que sont les laboratoires pharmaceutiques et autres firmes agrochimiques. Rappelons-nous, les résistants du pays refusaient eux aussi un travail obligatoire. Le STO au service du nazisme. Les combattants sans papier, italiens, espagnols, montés au plateau, refusaient le joug de leur gouvernement fasciste et raciste. Au fond, L'hommage présidentiel ne serait-il pas qu'un coûteux spectacle médiatique pour mieux écraser l'esprit quotidien de la résistance ordinaire des ouvriers, paysans, infirmières, profs, journalistes, retraités ou simples citoyens qui défendent les acquis du Conseil national de la résistance? L'Aiglière exige le respect des valeurs de son sacrifice. La montagne inspire le calme du repos éternel de ceux qui ont combattu. Et nous n'avons que faire d'un spectacle médiatique et d'une agitation.
Lorsqu'il a été demandé à Serge Halimi ce qu'il pensait de la burqa, j'ai suspendu mon activité pour entendre la réponse car l'avis de Serge Halimi est important pour moi. Heureusement, Serge Halimi n'a pas défendu la burqa comme l'ont fait certaines soi-disant féministes, allant jusqu'à la justifier, jusqu'à dénoncer aussi la dictature occidentale et tant d'autres choses qui m'en donnent encore et toujours des frissons. Serge Halimi a bien précisé qu'il s'agissait pour lui de quelque chose de négatif pour les femmes qui la portent et il a ajouté que quand on a dit ça, on a tout dit. Bien sûr que non, que l'on n'a pas tout dit lorsque l'on a dit ça. Au contraire, c'est là que tout commence. Pour ceux, bien sûr, qui perçoivent cette burqa comme négative pour les femmes qui la portent. Serge Halimi a dit aussi que l'on parle de la burqa pour éviter de parler d'autre chose, la situation économique, le chômage, etc., etc. Comme Mélenchon qui veut qu'on lui parle de politique, mais pas de maisons closes. C'est sans doute une coïncidence si les deux sujets concernent les femmes.
Eh bien, ça tombe bien qu'on parle de la burqa. Ça tombe très bien qu'on parle de la burqa, parce qu'ici, au Japon, je suis très perplexe. La burqa, évidemment, nous autres Français, nous sommes contre la burqa. La burqa, c'est l'ennemi, la burqa, c'est le mal, la burqa, c'est le refus de communiquer, la burqa, c'est enfin c'est la pire des choses qui puissent être sur cette terre. Or, actuellement, je suis au Japon. Je suis à Tokyo, par exemple, ce soir. Eh bien, qu'est-ce que je vois autour de moi, là, dans ce restaurant? Je vois des gens qui portent des masques. Vous savez, ces masques blancs. Et oui, même au restaurant, on porte ces masques blancs. Mais dans le métro, mais un peu partout, on porte ces masques. Et alors, eh bien, je trouve la même chose. Je trouve des gens qui refusent de communiquer. Des gens qui se replient sur eux-mêmes. Alors évidemment, il y a le prétexte de l'hygiène, c'est à cause de la pollution, c'est à cause des pollens, c'est pour éviter de contaminer les autres, etc. Mais faut-il croire ces gens-là? Faut-il croire ces gens-là? Toujours est-il qu'ils sont méconnaissables et qu'ils se cachent peut-être derrière ces masques blancs. A-t-on songé à faire un rapprochement entre la burqa et les masques blancs des Japonais? Je vous pose la question et je me la pose en même temps. Vous pouvez vous consoler aujourd'hui avec cette heure de là-bas si j'y suis qui vous attend et dont je ne vous dirai rien. Mais auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonsoir à toute l'équipe et encore bravo pour cette émission modeste et géniale. Donc moi ce que j'ai retenu c'est surtout le comportement du gouvernement français par rapport à l'État d'Israël, quoi. C'est proprement lamentable. Et ça me rappelle une phrase qu'avait dit Nicolas Sarkozy alors qu'on était encore à l'époque de la décomplexion et de la rupture à laquelle tout le monde croyait. Il avait reçu un représentant d'Israël et puis après s'adressant aux journalistes, très satisfait, il avait dit, je lui ai simplement demandé qu'est-ce qu'il fallait pour finir le travail, sachant que ce gouvernement israélien se préparait à lancer une attaque encore contre les Palestiniens, quoi. Alors moi j'ai trouvé cette phrase particulièrement choquante. Par ailleurs, je voulais dire que chaque fois à la fin de l'émission, on a droit aux informations et c'est vraiment bizarre parce que on a l'impression, après avoir eu une bouffée d'air normal, comme si on s'était promené un petit peu dans les rues de la ville ou en campagne, de plonger dans un puits de mine, quoi. Le niveau de désinformation et d'intoxication sarkozyste qu'atteint l'information de France Inter, c'est vraiment inquiétant, quoi. Pour qu'une radio publique avec information publique en soit là, sans dire long sur l'état du pays, et je pense que l'équipe de la Bastille-Suisse devrait se pencher avec sans doute des sociologues de la communication de l'université sur un peu ce divorce qu'il y a entre la réalité et cette désinformation qui se déverse tous les jours pendant des heures, en fait, quoi, puisque les bulletins arrivent à heure précise.
Merci, comment vous remercier d'avoir eu cette fidélité toute la semaine de passer les messages pour tenir au courant de l'expulsion programmée de Guilherme à Lyon. Épisode du jour, un épisode un peu plus heureux. En fait, Guilherme a été mis dans une camisole ainsi que mis une muselière autour du visage hier après-midi à l'aéroport du Bourget, embarqué dans un avion militaire qui est parti pour Lisbonne où un vol en correspondance pour l'Angola devait, un vol régulier devait l'amener en Angola. Et ce vol militaire n'a pas eu l'autorisation des autorités portugaises pour se poser à Lisbonne. Donc l'avion est parti, a volé un petit moment et puis est revenu. Guilherme, avec sa camisole de force et sa muselière, a été débarqué. Et finalement, tard dans la soirée, le préfet du Rhône, le sympathique préfet Papon, dont je vous ai déjà parlé, a commis un courrier dans lequel il disait que devant l'impossibilité matérielle d'expulser ce monsieur, il allait donc être remis en liberté aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu l'épilogue provisoire de cette histoire, une mobilisation d'une école de quartier à Lyon qui arrive à sauver quelqu'un d'une expulsion invraisemblable. On est en 2010, on met des gens dans des avions avec des camisoles de force et des muselières. Je ne pensais pas de mon vivant voir un truc pareil. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont mobilisés. Merci à toi, Daniel, et à ton équipe d'avoir accepté d'encombrer votre répondeur 3 jours de suite avec ces messages. Mais je crois que c'était vraiment utile.
Bonjour, je vous téléphone parce que nous continuons à aider les grévistes, les travailleurs sans papier à la Porte des Lilas. Et donc demain, samedi 10 avril, de 11h à 18h, des habitants du quartier ont organisé sur le piquet de grève une vente de gâteaux fait par les mamans du quartier et puis une vente, une belle braderie de vêtements. Donc venez nombreux, nous vous attendons tous sur le piquet et tout leur sera reversé intégralement. Merci.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Anne Rioux.
Ah, quelle belle boîte à outils!
Flight number 2, arriving from New York.
Bon, allez, on peut.
Donc on va chauffer le métal rouge cerise pour écraser le métal, faire arriver. Je vous montre un... Alors voilà, on va faire un assemblage... Saxo ici! Un assemblage par riffetage, comme on faisait il y a 300 ans. Hein, sur une partie dure. Après on allume le chalumeau, logiquement on fait ça à la forge, mais là... Là, on chauffe, là. Alors, c'est le système d'assemblage à Tour Eiffel. Hein. La Tour Eiffel est assemblée comme ça.
C'est la même chose que pour la Tour Eiffel, vous dites?
Voilà. Même assemblage. Vous voyez comment on fait?
C'est quoi? C'est un chalumeau, ça?
Un chalumeau. On fait ça en deux temps. Non, bougez pas. Mettez-vous par là. Première fois, on fait une deuxième chauffe.
Ça sent le brûlé, hein?
Ah ben c'est normal, ça. C'est la ferraille. Alors attention à vous, là.
Ça y est, c'est rouge, hein?
Le rivet est fait, voyez.
Eh oui, on en trouve encore de ces braves artisans français de notre France profonde, de notre France d'en bas. Cette race d'hommes modestes et fiers de ce qu'ils ont entre les mains, c'est-à-dire un métier. Des hommes loin de toutes les turpitudes perverses des bobos socialistes et dégénérés. Oui, il y en a encore. Ferronnier, serrurier, un homme qui a monté sa boîte. Et seulement, voilà, cette émission, c'est là-bas, si j'y suis, et je ne vous en dis pas plus. Là-bas, si j'y suis, il faut s'attendre au pire, et le pire est dans le fruit, et même dans le fruit défendu. Vous avez entendu le rivet, l'assemblage, je ne vous en dis pas plus. Et puis cette Anne Rioux, journaliste sexploratrice. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Ce que je sais, c'est que là où l'on va, c'est pas des fleurs qu'il faut apporter, on apporte plutôt sa caisse à outils. Eh oui, si la serrure de la ceinture de chasteté reste coincée, si le lit monté sur vérin hydraulique pour s'envoyer à 12 en l'air reste en l'air et que c'est dimanche, eh bien, on est content de l'avoir, la caisse à outils. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis même pas ni où, ni comment, ni dans quelle tenue Anne Rioux, journaliste sexploratrice, et ce Bruno, ce brave serrurier, se sont rencontrés, lui avec sa clé de 12 et elle avec son mari, empalé sur la tringle à rideau. Je ne vous en dis pas plus. Comme dit Woody Allen, non seulement Dieu est mort, mais en plus c'est impossible de trouver un plombier le dimanche.
Mon slip, c'est ma boîte à outils, là où ce que je range tout ce qui traîne. Mon slip, c'est ma boîte à outils, vraiment chez moi c'est une manie. Je ne veux pas pour mes étrennes d'un caleçon en laine. Mon fer à souder, je ne veux pas qu'il rouille. J'arrive à le caser derrière une de mes pinces. Il me faut un endroit joli dans mon slip. Y'a déjà mon zip, je vais trop vite. Quel enfer ce slip, on dirait que ça tend la bite. Mon slip, c'est ma boîte à outils, là où ce que je range tout ce qui traîne. Mon slip, c'est ma boîte à outils, vraiment chez moi c'est une manie. Je ne veux pas pour mes étrennes d'un caleçon en laine. Je propose des visites, les gens déambulent, le tout Bordeaux s'invite. Dans mon slip on s'empiffre, pas besoin de guide, tout le monde se suit. Je ne connais pas de bide, de jour comme de nuit. Dans mon slip on joue, oui on joue. Mon slip c'est ma boîte à outils, là où ce que je range tout ce qui traîne. Mon slip c'est ma boîte à outils, vraiment chez moi c'est une manie. Je ne veux pas pour mes étrennes d'un caleçon. Mon slip c'est ma boîte à outils, là où ce que je range tout ce qui traîne. Mon slip c'est ma boîte à outils, vraiment chez moi c'est une manie. Je ne veux pas pour mes étrennes d'un caleçon en laine.
On a une tête ronde, et on retourne à la tête ronde à l'autre bout. Ça, c'est le meilleur assemblage que de soudure. Ça ne bouge pas la dilatation. Été comme hiver, ça ne bouge pas.
C'est ça qui fait votre réputation?
Voilà, c'est de faire des assemblages à l'ancienne, quoi. Ouais. Plus personne ne fait de rivetage maintenant, ou pratiquement plus, quoi. Donc, c'est inusable, ça dure 1000 ans. Enfin, ça, c'est des métiers d'hommes, quoi. C'est dur.
Ah, c'est un métier d'homme?
Oh, bah oui, là, il faut quand même remuer des gros marteaux. Hein. Les marteaux font de 400 grammes à 1,5 kg. Hein, donc.
Et vous, ça muscle votre corps?
Oui, ouf. Oui, restons modestes.
Qu'est-ce que ce rivet, il va aller sur quoi alors?
Pour des carcans, pour des porte-boulets, enfin ce qu'on veut quoi. Des menottes également. Oui, j'ai des menottes comme ça aussi. J'ai Beauvoisson, des menottes anciennes. Mais on peut faire des objets SM quoi.
SM, ça veut dire?
C'est sadomaso, mais bon, j'en prends pas ce terme-là. Moi, c'est une qui entend comme une autre, et puis voilà quoi. On dirait jamais,
On dirait jamais le village où l'on est, c'est absolument charmant. Vous entendez ça, c'est un cadre champêtre, les petits oiseaux, ce ciel d'Eure-et-Loir, des endroits où il fait bon aller respirer. Eh bien, c'est là qu'on va aujourd'hui, route du Mal aux Verges. Oui, ça s'appelle vraiment comme ça, c'est vraiment une route qui s'appelle comme ça dans ce charmant village d'Eure-et-Loir. Et là, eh bien, il y a Bruno qui nous attend, ou plutôt qui attend Anne Rioux. Et vous avez compris que ce garçon, d'une trentaine d'années bien passées, eh bien, il fabrique dans son atelier des ustensiles un petit peu particuliers. On le surnomme le forgeron de Satan.
Voilà un costume traditionnel.
C'est la vraie blouse de travail.
Hein? Le forgeron.
C'est quoi, bleu?
Bleu, oui.
Bleu et tout noir devant, quoi.
Oui, pas forcément, parce qu'on travaille.
Comment s'appelle votre métier?
À la base, c'est d'être ferronnier, chaudronnier, enfin, métallier, tout ce qu'on veut, tout ce qui est rapport au métal, quoi.
Ouais. Vous dites à la base, parce qu'après, c'est devenu quoi?
Oh, on peut quand même dire le terme décorateur, hein. Ça serait pas exagéré, hein.
Ouais.
Décorateur en métal, voilà.
Ouais. Ça suffit pour définir, vous croyez?
Bon, décorateur, restaurateur, parce que je restaure également les monuments historiques à Paris. Donc, un client, il veut un rayon séros, on en fait en métal. S'il veut un palmier, on lui fait un palmier. S'il veut un avion, je lui mets un avion. Enfin, voilà, quoi.
Appelons ça, est dans la catégorie nuit.
Oui, bah, je travaille pour des clubs d'échangisme. Donc, on arrive dans les cages, si je puis dire. Une clientèle spécifique. Les clubs de chanisme, ce sont des menottes, des croix de Saint-André, des cages.
C'est quoi les croix de Saint-André?
Bon, je vais vous montrer. De l'autre côté, je vais vous montrer.
Ouais, je me demandais si vous pensiez qu'on était bien habillés tous les deux.
Oui, bien sûr. Je suis fidèle à moi-même.
C'est-à-dire,
ouais. Je suis en blouse.
Et moi?
Ça va, vous êtes toute belle avec vos décolletés.
Ah. Ah oui, le décolleté. On va où?
Au club Sadomaso, SM. Et ce soir, c'est une soirée transsexuelle, je crois, ce soir.
Bonsoir, messieurs, dames. Vous venez souvent?
Oui, tous les mercredis.
Ouais. Et c'est un lieu unique ici à Paris?
Oui, je pense que c'est le lieu le plus beau et le plus adapté au SM.
Ce que je voulais vérifier, c'était la solidité du matériel.
Là, c'est une pièce un peu cachot. Donc ici, tu as vraiment un cachot avec des ouvertures à différents niveaux, au niveau du sexe, au niveau de...
Sur une porte.
Et la personne reste pendant plusieurs heures, si on veut, attachée à ses chaînes. Voilà.
Vous risquez pas de le casser parce qu'ils font tout là-dessus. Ouais. Il faudrait vraiment trier très très fort. C'est...
On a vu des très gros suspendus sans problème.
Bruno.
Moi?
Oui. C'est vous aussi ça qui avez fait ça, ouais?
Oui. C'est moi.
C'est un siège, un très très ancien siège de dentiste qu'on a modifié. On a mis des petits étriers comme un peu comme. C'est un gynécologue, et puis à partir de là, on peut jouer avec. Parce qu'on peut attacher les mains, on peut s'engoder tout seul, là, sur cette espèce de... À première vue, quand vous rentrez, si vous n'avez pas le fantasme, vous ne pouvez pas comprendre à quoi ça sert. En fait, sur la grosse manette rouge, là, un gommichet en plastique, et ça tient très solidement dans le mur. Donc, en fait, la personne fait des tractions avec ses mains, et en même temps, se fait l'amour tout seul. Quoi.
À quoi sert la boîte de Kleenex, là?
À s'essuyer.
Dans les idées lubriques. Mmh. En lui disant, bon, voilà, Bruno.
Vous êtes le patron du donjon.
Oui, hein? Bruno, c'est un artiste. Alors donc, lui, il a le goût, il a le savoir-faire. Bon, moi, après, j'ai les idées lubriques. Donc, je commande à Bruno des trucs, mais où il comprend très très vite, parce que j'ai même presque pas besoin de lui expliquer. J'ai dit, voilà, je veux un truc comme ça. Pouf, Bruno, je lui fais même presque pas de dessin. Il n'a pas besoin de lui faire un dessin. Il a tout de suite compris. Donc, il me sort un truc d'enfer. Donc c'est là où Bruno est extraordinaire. quoi. Lui, il a le goût du médiéval, du... Comment on pourrait dire, je sais pas, du secret, quoi. Il est capable de nous refaire tout le décor de la conciergerie à Paris. Je suis sûr que Bruno, on lui montre deux photos, c'est fini. Le lendemain, il nous fait un truc. Enfin bon, c'est un petit peu des copies des instruments préhistoriques de torture, quoi.
Ah oui.
Bah oui.
Alors ça, c'est Bruno qui l'a fait.
Mais on n'a pas mis les pics dedans. Nous, on le fait soft. On nous a fait un siège très particulier là, où toute l'armature, c'est Bruno qui l'a étudié et qui nous l'a fait un truc d'enfer. C'est-à-dire qu'il y a un système mécanique où on met un sexe artificiel en plastique. On appelle ça un goy-michet. Il est articulé ici, vous voyez, par un petit moteur électrique. Donc, en général, on fait asseoir sa jeune femme au bar. On la fait asseoir sur ce tabouret qui est percé. Et on peut diriger la vitesse de va-et-vient du coït mécanique. À l'arrière. Et par contre, on a aussi l'avantage, et ça c'est aussi une idée à Bruno, c'est d'avoir mis une glace en face, de façon à pouvoir voir en même temps les fesses et le visage.
Ouais. Asseyez-vous. Allez, bouge pas. Asseyez-vous. Il n'a pas bougé, mon bébé. Hein.
Attendez, vous voyez votre chien ?
Mon chien, oui, ça c'est important. Hein.
Pourquoi ?
Question de principe, il est de bonnes origines. Ça s'appelle Saxo. Il est très mignon, il s'appelle aussi Gazou. Il est très mignon. Dis bonjour, mon bébé. Il est surdoué.
Surdoué ?
Ah, oui. Très mignon. Il manque la parole.
C'est un labrador tout noir.
Oui, ouais. Si on veut. Allez, essayez-vous.
Et voilà, vous avez compris l'activité de Bruno dans ce village charmant, encore une fois, d'Eure-et-Loire. Décor champêtre, on entend le bruit joyeux du marteau, du ferronnier qui travaille. Et qui travaille à quoi ? Ben, vous avez compris, surtout si pour vous, la roulette du dentiste suscite une érection irrésistible.
Qu'est-ce que vous voulez me montrer ?
On va montrer les juments, elles sont très gentilles.
Vous avez des chevaux aussi ?
Donc j'attends des matériels agricoles anciens. Et je fais des semis avec, enfin un peu de tout, quoi. Du fauchage, des récoltes. Ouais. Elles sont costauds mais gentilles comme tout.
Ouais. Mais vous avez commencé, vous étiez agriculteur ?
Oui, j'ai commencé comme agriculteur, oui. Et puis, j'ai pas réussi à m'agrandir comme je le voulais. Alors, j'avais appris un métier parallèlement à ça. Et puis j'ai continué mon métier de ferronnier.
De
ferronnier.
Ferronnier, oui.
Et puis je regrette pas parce que j'ai quand même des revenus un peu plus conséquents qu'en agriculture. Malheureusement, c'est...
Vous avez pourtant gardé un champ.
Moi, j'ai gardé, oui, une partie de la ferme que je loue, quoi. Voilà, mais...
Non, mais le champ qu'on a vu...
J'ai gardé des champs pour m'amuser, oui.
Ah, pour vous amuser.
Oui, c'est pour m'amuser, c'est ma distraction. Donc j'attelle les chevaux, je m'amuse, oui, avec quoi.
Mais quand ? Parce que vous travaillez pas mal, hein ?
Je travaille beaucoup. Le peu de temps que j'ai de libre, en général le samedi ou un petit peu pendant les vacances, quoi. Un petit peu.
Est-ce que vous prenez des vacances ?
Non, jamais, mais je prends une journée de temps en temps.
Non, jamais de vacances, mais une journée.
Une journée de temps en temps, ça peut être en semaine, un mardi, ça peut être un jeudi, ça dépend comment je suis luné, ça dépend de plein de choses.
Ah oui, donc vous faites du colza pour vous amuser, pour vous détendre ?
C'est plutôt de semer du blé, votre plutôt du blé.
Blé ?
Oui, c'est un amusement, oui. On fauche ça à la lieuse avec des matériels anciens d'avant-guerre.
Vous faites ça avec du matériel d'avant-guerre ?
Ah oui. Après-guerre, c'est du récent, ça. Uniquement de l'avant-guerre, oui. Puis là, ça c'est ma roulotte, ça. Alors, quand j'ai une crise, j'attelle la roulotte, m'en vais.
C'est quoi une crise ?
Un peu de fatigue, ou me repose un petit peu, je pars 5-6 jours. Je mets les juments devant et puis je m'en vais. Comme des voyageurs, des gitans, pareil, quoi.
Non, sérieux, vous prenez les deux percherons, là ?
Oui, puis hop, j'attelle ça en paire et puis je prends la route. Et puis on fait du feu le soir, enfin c'est... Il y a à manger et à boire. Je débranche le portable et puis je m'en vais. Ça va, faut pas me joindre.
Ah, en fait, ce sont les clients que vous fuyez.
Oh, oui. Parce que j'ai un peu trop de travail, alors...
Il y a du vent.
Il y a beaucoup de vent, oui. Non, j'ai beaucoup de j'ai trop de travail, alors je fuis les clients. J'en ai largement assez.
Ouais. Mais en fait, et ça marche par bouche à oreille, vous faites même pas de publicité ?
Mon atelier est en liste rouge, téléphone depuis 15 ans.
pour pas que les clients m'emmerdent, quoi.
Vous en avez tellement que vous voulez plus qu'on vous emmerde.
Oui, voilà.
Sinon, il y a quoi? Il y a pommes, ça, ce sont des pommes.
Les pommiers, oui.
Les pommiers et les trucs verts, là, les plantes vertes, c'était là. Des choux, c'est quoi?
Des choux, oui, des choux.
C'est ça. Oui, là, c'est un hangar
oui.
où apparemment vous allez montrer des horreurs.
Oui.
Et là, c'est du chou pour la potée aux choux et un champ de pommes, quoi.
Oui, c'est pour des potées aux choux l'hiver, c'est bon ça.
Où est-ce qu'on va là?
On va à l'atelier.
Et c'est quoi l'adresse alors?
Aux 3 routes de Mal aux Verges.
Non, ça s'invente pas. Mal aux Verges, au pluriel.
Avec un S, oui, pas oublier le S.
Et d'où ça sort ce nom?
On ne sait pas, c'est inscrit au cadastre depuis 300 ans environ. On ne sait pas.
On ne sait pas.
Voilà, bah, l'intérieur c'est un atelier traditionnel avec beaucoup de ferraille, de l'outillage.
De quoi vous êtes le plus fier?
Oh, mon travail en général quand même. C'est rare que de reproches.
En fait, la pire vexation pour vous, ce serait qu'un client vous dise, pendant nos séances un peu coquines, l'objet a lâché.
Oui, ça m'est jamais arrivé, à part les pertes de clés de cadenas, des conneries dans ce style. C'est garanti à vie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah si, une fois, j'ai eu un souci avec un lit qui restait coincé, en hauteur, un lit sur vérin. C'était un lit de 3 mètres sur 3 mètres, et monté sur vérin. Puis en haut des glaces au plafond, et le fantasme c'était de s'approcher le plus près possible des glaces au plafond, puis de faire joujou. Donc ils se voyaient faire des ébats pour plusieurs couples en même temps.
Ah bon?
Oui.
Bah dis donc, c'est un grand lit alors.
Ah bah les 3 mètres sur 3 mètres, on peut jamais mettre quelques personnes dessus. Hein. Oui. Il fallait aussi que les vérins s'arrêtent avant de monter en haut, parce que sinon ils se trouvaient croisés là-haut, c'était un petit peu scabreux. Enfin bon. Alors donc j'ai été faire un dépannage, et puis donc plusieurs. C'est le seul problème que j'ai eu au niveau...
Ne me dites pas que les couples sont restés coincés là-haut.
En hauteur, si. On a trouvé une échelle, ils sont dit pour descendre.
Non.
Bah oui, j'avais des problèmes avec l'hydraulique, avec les vérins.
Vous rigolez, il a fallu les faire descendre avec une échelle, bah, tout
oui,
nu
Bah oui, mais c'est pas un problème, ça. Ouais. Je suis arrivé, il y en avait encore 2 ou 3 à poil, mais bon, c'est pas un souci. Non, j'ai solutionné le problème, mais c'est vrai que là, j'ai eu une tuile, j'ai mis plusieurs fois avant que ça marche. Donc c'est une perte de temps et puis une perte d'argent, parce que c'était un problème de prise d'air. Dans les vérins.
C'est un problème de prise d'air dans les vérins?
Oui, oui, oui. Une fuite hydraulique, ça, on est suivi, c'est terminé, mais quand vous avez de la moquette et des pots de nounours par terre et puis des glaces partout, on ne peut pas purger les tuyaux correctement, quoi. J'ai mis quand même plusieurs mois à résoudre la panne.
Terrible, ça, hein? Vous avez une fuite hydraulique, une prise d'air dans les vérins, et voilà... Une histoire d'amour qui tombe en loc, hein. C'est ça l'amour forain, l'amour avec des instruments, l'amour avec des outils, l'amour avec de la ferraille, avec des clous, avec des croix, avec des fils de fer barbelés éventuellement. C'est une vieille coutume. Non, ne croyez pas que c'est notre époque qui est particulièrement perverse et dévergondée. On trouve ça depuis toujours, ça s'est toujours fait. Oui, dans tout un tas de cultures différentes, y compris les cultures traditionnelles, on trouve le recours à... Alors des fois c'est beaucoup plus végétal, c'est ça vient de ce qu'on a sous la main. Alors là, bon, bah, aujourd'hui c'est la ferraille, mais ça peut être tout à fait autre chose. Et il y avait... Dans les bordels de la grande époque, dans notre belle capitale parisienne, eh bien, de ces meubles, de ces sièges bien particuliers qui se fabriquaient. Et si ça revient, grâce à nos élus, eh bien, on verra à nouveau peut-être toute une branche économique se développer. Mais on voit que Bruno a trouvé, sorti de sa campagne, il a trouvé une façon de se recycler. Alors évidemment, à partir de maintenant, tout ce qu'on dit est à double sens. Si je dis se recycler, hop, vous pensez tout de suite à, eh oui, un vélo sans selle, ce qui est mal, parce que on peut très bien ne pas penser qu'à ça.
Ah, je vais quand même vous dégager un petit peu, là. Voilà, j'ai quand même une cage sympa, toute triffée. Hein. Je montre quand même... C'est coup, une cage...
Attends, vous êtes en train de dégager quoi?
Une cage toute riftée ancienne, enfin, style Louis XI, quoi. Où les gens s'enferment dedans, puis font joujou dedans, quoi. Pardon. Il n'y a pas de soudure. Tout est assemblé par, entièrement à dérivé à chaud. Donc, c'est comme on faisait il y a 300 ans, quoi. Des méthodes anciennes de travail.
Et c'est en quoi?
En acier. En acier.
Mais alors, elle fait combien? Elle fait quoi? Un mètre?
Enfin, un mètre. Alors, c'est une cage de soumission pour les maris désobéissants, ça. Donc, ça fait 1m20 sur 1m20 au carré, plus 1m20 de hauteur. Donc, c'est une position à la con. Vous pouvez ni être debout, ni être allongé. C'est des positions à la con.
À la con?
Bah oui, parce que vous voyez bien, à la cage, on peut pas être debout, on peut pas être assis. Enfin, si, assis, c'est tout. On peut pas être allongé, on peut rien faire. Donc, c'était la copie des cachots anciens.
Il y a une porte pour rentrer?
Il y a une porte d'entrée ici, là, comme en bas.
Ah, on voit pas, hein?
Bah, approchez-vous, comme un passage pour comme vous faire rentrer un chien, vous voyez?
Ah oui, tout petit, quoi.
Voilà, les gens rentrent dedans à quatre pattes.
Ouais. Mais alors, ça, c'est pour faire quoi?
Actuellement, c'est pour une clientèle particulière, comme mettons les gens partent en week-end prolongé, ils n'ont pas confiance dans le mari ou dans la femme, ils les mettent dans la cage pendant le week-end.
Je me demande si je comprends bien. Ça, c'est une cage dans laquelle on met son conjoint quand on part en week-end et qu'on veut être sûr qu'il ne bouge pas.
Voilà. Ça, bon, ça se pratique dans certains milieux. Et puis, ils mettent une gamelle de pain sec et une gamelle d'eau. Et puis, le week-end se passe. Et puis, ils rouvrent la cage en rentrant de week-end. Puis, ça se vend. Il y a une clientèle pour ça.
Cher?
Non, ça vaut 7000 francs une cage comme ça. C'est correct.
Un peu plus de 1000 euros, quoi.
Oui, moi, je ne me ferai jamais l'euro, après c'est tout. Je suis vieille France. J'ai des boulets, là, pour. Pareil, quand les clients ils partent en week-end pour que leur mari se sauve ou les femmes se sauvent. Enfin, c'est pour les maris. Je vais en trouver un beau, là. Attendez, bougez pas. Je sais pas où c'est plus simple. C'est pas. Je vais le trouver.
Ah oui, vous savez où il est au moins?
Oui, bah c'est là-dedans. Oui. Bougez pas, parce que là, il y a un moteur de voiture ancienne.
Attendez, ouais. Il faut enlever la selle de cheval, il faut pousser le moteur. Il y a du grillage.
Il y a une table en fer forgé. Là, une caisse à munitions, on va y arriver.
Une caisse à munitions, ouais.
Voilà. Alors, vous avez un gros spécimen, là. C'est quand même 90 kilos.
Hein?
C'est un boulet qui fait 90 kilos.
Ah, vous pouvez pas le traîner jusqu'à moi, ouais.
Vous voyez, ben non, c'est une grosse bête.
Attendez, je m'approche de vous, j'évite le bac à huile.
Ouais. Bah, je vais vous faire une démonstration, tiens. Ouais. Si un jour votre mari vous emmerde, vous allez voir. Il n'y a pas 40 solutions. Hop, vous l'attachez à la patte, comme ça. Clac, on referme.
Alors vous mettez la chaîne.
Et puis donc, le mari, il a ça le week-end à la patte, quoi. Il ne peut pas tellement bouger, quoi. Je ne sais même pas s'il peut le petit coin, c'est leur problème. Parce qu'il est soumis, c'est une punition. C'est une des règles du sadomasochisme, des SM, quoi. Et donc, ils s'imposent des règles entre eux, et voilà, quoi. Bon, pour une fois, ça change, c'est bien, voilà.
Ah oui, alors c'est pareil, c'est le fantasme de l'homme qui est un riche industriel pendant la semaine, voilà, qui commande du monde et qui, le week-end, est soumis par sa femme.
90% de la clientèle sont des hommes qui sont punis. Voilà.
Et alors, vous dites que donc ça, il faut une clé spéciale pour le défaire.
Oui, pour qu'il se sauve. Ouais.
Vous l'avez?
Oui, une fois, une cliente avait perdu, elle appelé un matin 2h pour libérer le mari. Alors, je suis allé, mais maintenant, je n'irai plus maintenant. Il attendra 8h comme tout le monde maintenant.
C'est-à-dire que vous étiez à
la campagne,
vous êtes remonté sur Paris, oui, à 2h du matin.
Pour libérer le mari, oui.
Pour libérer le mari, oui. Non.
Non, c'est sérieux, oui. Alors, bon, ça va une fois ou deux, mais pour 10, hein. Mais 10-15 ans de moins, maintenant, c'est terminé, c'est quoi? Terminé, maintenant, sans qu'à se débrouiller. Je suis tout habitué, il cache tellement les clés qu'il les perd, quoi. Alors on planque pour que les gamins tombent dessus, pour la fin de ménage, et puis ça finit qu'on perd tout, quoi. Ils ont une scie à métaux dans un petit coin, puis voilà. Hein.
Donc vous livrez toujours vos matériels SM avec une scie à métaux ou quelque chose, quoi.
Ouais, ils se démerdent, c'est clair.
Combien vous dites de kilos?
Le boulet, celui-là, c'est un gros modèle, il fait 90 kilos.
90 kilos?
Parce que j'ai eu un problème avec une cliente, j'avais fait un boulet de 30 kilos, puis son mari s'était sauvé avec. Alors elle m'a appelé en catastrophe, il fallait faire un boulet plus gros. Une urgence pour le week-end suivant. Alors bon, j'ai dû faire couler un boulet en urgence. Elle a payé le prix fort parce qu'il y avait la livraison et puis il y avait du travail comme ça en urgence, quoi.
C'est-à-dire vous livrez, éventuellement il peut se passer quelque chose avec la dame, éventuellement, et puis après vous repartez.
Ah bah non, là pour un boulet, on fait pas joujou, un boulet. Non, on fait pas joujou tous les coups. Hein. Non, là c'est. Oui. Non, on fait joujou une fois sur 10, hein, c'est pas. Puis je vous dis, j'ai pas trop le temps en ce moment en plus. Ouais. Bon, là c'est pas des objets de grosse valeur, un boulet comme ça vaut 1500 balles. Hein. Bon, là-dessus, il y a du délai, hein. Faut un an d'attente, hein.
Non.
Ah oui, oui. J'ai trop de boulot, ça vaut rien. Ou ils vont ailleurs. Puis comme ailleurs, ils trouvent pas, ils reviennent à la charge, quoi.
Mais vous êtes le seul à faire des trucs pareils?
On doit être trois en France à faire ça, oui. J'en vends également en Allemagne et puis en Hollande et puis, aux USA aussi, qui sont gourmands, genre de choses là, quoi.
Pendant les rares moments de pause où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou.
Bois d'un outil, bois d'un outil.
Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplacera demain par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
Bois d'un outil, bois d'un outil.
Comme il redoute que les canailles convoitent ses rabots, ses tenailles, en se couchant, il les installe au milieu du lit conjugal.
Bois d'un outil.
C'est commode, je vous jure.
Bois d'un outil.
Et souvent la nuit je m'éveille en rêvant aux monts et merveilles qu'annonce un frôlement coquin, mais ce n'est qu'un vilebrequin. Mon Dieu quel malheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel malheur d'avoir un mari bricoleur.
Là vous marchez sur un fouet, faites gaffe là. Oui.
Sérieux?
Ah bah si,
tiens,
mais
oui. Un fouet, mais c'est pas votre domaine, le fouet.
Non, c'est parce que c'est une cliente qui a dû le laisser là, ouais.
Et vous avez des modèles de cercueil, ici?
Bah oui, là, j'ai le mien, qui est là.
Pardon. Comment?
J'ai le mien, là, qui est devant vous, là.
Qu'est-ce que vous appelez le vôtre?
Bah, quand je vais clamser, on me mettra dans la caisse.
Non.
Bah, si, j'ai préparé mes obsèques, comme ça, c'est clair. La caisse est là, elle est prête.
Alors, ah, c'est là-haut, au-dessus de l'armoire, là?
Oui, il est de qualité, il enchaîne. Donc, c'est pour une personne jusqu'à 1m85. Avec poignée en bronze, c'est de très bonne qualité. L'intérieur est en satin, et en coton et en lin, brodé. Bon, c'est sympa. Voilà.
En satin, coton, c'est vous qui avez choisi, évidemment.
Ah oui, j'ai choisi la parure intérieure, oui. J'essayais, hein, tout va bien.
C'est vrai?
Oui, ça me va très bien.
Le bois, c'est toujours chaleureux,
ouais,
de toute façon.
C'est chaud, le bois. Oui, le bois, c'est chaud.
C'est vrai, c'est joli, le bois, comme ça, c'est... Bon, petit intérieur douillet. Voilà comment... Bruno voit l'avenir, enfin le sien en tout cas. Alors évidemment, vous vous dites, un an pour livrer un boulet, c'est quand même long. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut savoir ce qu'on veut. Une cage, si vous rêvez de mettre une cage ou votre mari pendant le week-end dans une cage, eh ben ça doit être assez long. Alors Bruno raconte aussi qu'il a des clients encore plus spéciaux, c'est déjà pas mal, mais il a encore plus spécial. Quelqu'un qui lui a demandé une guillotine, mais une vraie guillotine. Alors je dis oui, mais bon, à condition de mettre un frein au bon endroit, vous voyez, un taquet quoi, qui arrête au bon endroit. Un autre qui lui a demandé une chaise électrique, mais une vraie. Ah, alors là, il a dit non, ça peut paraître bizarre, mais une vraie chaise électrique, c'est pas... Il va pas jusque-là. Et il raconte des histoires extraordinaires. Alors évidemment, il y a toujours l'homme politique célèbre qui, chez lui, dans sa propriété, organise des parties fines et sévères. Mais évidemment, même sous la torture... Bruno ne nous dira jamais de qui il s'agit. Voilà ce à quoi on peut passer ses jours quand on est un honnête ferronnier, serrurier, qui ne cherche qu'à faire marcher sa petite entreprise.
Alors, je remets le pied dans la bassine. Voilà.
Une fofolle, là.
Une fofolle?
Ouais. J'ai pris un lampadaire avec un... Avec un jouet, vous voyez?
Alors, attendez.
C'est clair, quand même, net, quoi. Hein.
ça oui, s'appelle un bah, sexe d'homme oui, érigé bah, avec un abat-jour dessus.
Où a fallu son érection, d'une taille déjà assez conséquente. Oui. Et puis, dessus, un abat-jour, quoi.
C'est en quoi?
C'est en acier. C'est en acier, oui. Et puis, bah, faut aimer, quoi, c'est sympa. Faut aimer.
Oui, mais j'aime pas l'abat-jour, figurez-vous.
Ce, ah, vous ça.
Mais ce petit pied de poule sur ce sexe en érection, ça va pas.
Ah oui, non, mais elle voulait ça. Bon, maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Mmh. Donc, je le range, parce que, hors de la vue des enfants, hop.
Alors, vous le refoutez dans le... vous le remettez dans le fouillis, ouais.
Dans le fouillis, et puis, bon, elle sera livrée peut-être cette année ou l'année prochaine, bon, quand j'aurai le temps.
Et ce sont les mesures de la partie intime de son mari ?
Ah, son mari, non, il n'est pas tellement bien monté apparemment. Non, justement, ça doit la faire rêver, ça.
Ça la fait rêver.
Je pense, ouais, je pense.
Ouais. Bon.
Alors ça, c'est une ceinture de chasteté pour hommes, ça. Alors,
C'est tout petit.
Bah oui, mais c'est pour le jouet quand il est au repos, hein. C'est pas quand il joue une érection. Hein. Alors voilà, vous passez ça derrière les testicules, ça.
C'est l'anneau, c'est en quoi ?
Un anneau en métal doré, hein, avec une inoxydable. Ça, c'est pour mettre la verge dedans. Et puis vous avez un petit cadenas au-dessus, donc logiquement, ça s'enlève pas.
Et vous faites pas les ceintures de chasteté pour femmes ?
Non, j'en ai fait, mais là, j'en ai plus en stock, là. J'en ai fait. Mais c'est pareil, c'est trop d'heures. Alors, j'ai une histoire, on va pas passer 15 jours après une ceinture de chasteté. Hein.
C'est trop cher.
Ça coûte trop cher.
Vous l'avez testé ?
Non, parce que... Non, je n'ai pas besoin de ça, non. Non, non.
Et c'est vous, là ?
Oui, c'est moi en tenue de forgeron, avec bien entouré, que si je puis dire, quoi.
Entouré de femmes nues ?
Oui, c'est sympa, ouais.
J'ai cru que c'était des photos de vos femmes, parce que toutes ces femmes en string et... Comment on appelle ça, là ? En porte-jartel, ou complètement à poil, d'ailleurs.
Non.
C'est pas à vous ?
Oui, il y en a une, oui. Oui. La blonde, là.
La blonde à droite, là ?
Oui.
Ça a été votre femme ?
Oui, entre autres, oui.
Entre autres.
Enfin, en 3 ans, oui.
Vous avez quand même eu 4 femmes dans votre vie ?
Oui, bah oui. Bon, c'est-à-dire que la première femme est partie, elle n'était pas sérieuse, je n'ai pas le tombé. Tombé sur une femme adultère au départ, donc ça n'a pas...
C'est-à-dire qu'elle est partie avec qui ?
Un client, tout bêtement. Un client, oui. Elle était... On peut dire le mot fainéante, et puis la cuisse hospitalière, ça faisait beaucoup de défauts, quoi.
La cuisse hospitalière,
oui, ça se dit, oui. Alors, on a un mot, on appelle ça être cocu. Mais bon, maintenant, j'en rigole avec le recul, quoi, mais c'est pas marrant. Enfin, les femmes légères, c'est toujours marrant chez les autres, quoi. Mais chez soi, c'est jamais bien marrant, quoi. Parce que c'est vrai que j'étais pas assez présent, peut-être. Enfin bon, dans une séparation, il y a toujours des torts de deux côtés, hein. Je cherche pas à accabler la chose. Et puis après, Après, ça a été Paris, puis après, ça a été les discothèques, et puis le monde de la nuit. Alors, là, j'ai tout vu, quoi. j'ai tout vu. Il y a un côté sympa, quand même. Sans donner de gants, c'est fait partie du métier.
Mais
on s'enlace, hein. On s'enlace.
On s'enlace, mais pour s'enlacer, il faut d'abord y avoir goûté.
Oui, non, à force,
Mais vous avez mis combien d'années à vous lasser, quand même ?
Ah, un bout de temps, mais au moins 10 ans. Pas tant qu'on est ferronnier, tout le monde a besoin, chez soi, d'un plombier ou d'un serrurier. Hein.
Et alors ?
Alors, après, on fait un dépannage, on fait un portail, et puis ça finit par un paiement en nature, enfin, c'est le truc classique, quoi.
Non, sérieux, parce que ça, c'est une légende, hein, c'est la légende du plombier qui va sonner chez une femme, et la femme est toute nue, et lui dit, je vous en prie.
Un exemple, au début, je faisais ça, bon, j'étais à Paris, dans un quartier sympa, livré une cage, bon, en arrivant, monsieur est parti jouer au bridge chez des amis, madame a ouvert... Bon, en robe de chambre, transparente, ça commençait déjà à me mettre dans le bain, quoi. Et puis j'ai dit, voilà, la cage, je m'en remerciais, et puis, m'a demandé après elle m'a payé l'apéritif, on a un peu s'y cassé, quoi.
Quoi
et, on a bu un petit peu de bonnes choses, quoi. Ouais. Et puis après, elle m'a demandé comment je voulais être réglé, ça a fini un paiement nature, quoi. Puis j'en regrette pas, bon, puis voilà.
Mais justement, là, vous avez fait une croix sur un travail de combien ?
Oh, c'est un travail à 6-7 000 francs. Mais bon, non, mais suite à faire global, ça se voit pas. Enfin, ça se voit pas, c'est entre guillemets, c'est quand même pas une cage tous les mois, c'est de temps en temps. Hein. Bon, je pars jamais en vacances, à la limite, ça fait une vacance, ça fait une soirée, puis c'est tout. C'est une soirée sympa, bon, ça coûte un peu cher, mais bon, vous savez.
Et ça, bon, comme on dit, ça valait le coup ?
Ah oui, bien... Bonne tenue au mastic, rien à y apprendre. Bien, bien, bien. Non, la femme de 45 ans, qui connaît tout, quoi.
Ah bon ?
Oui, il n'y a pas de sujet tabou. Tout autorisé.
Vous aviez quel âge à l'époque ?
Oh, moi j'avais, je ne sais plus, 32 ans, quoi.
Vous, 32, elle, 45.
Oh, mais c'est rien, ça. Ça ne doit pas, ça.
Et vous avez livré en blouse bleue, comme ça ?
En blouse rasée. Quand j'avais 18 ans, j'astiquais ma voiture tous les dimanches, pratiquement en costume, je n'avais rien. Maintenant, avec mon camion, ma blouse, ma gueule pas rasée, je lève ce que je veux. Vous voyez, là, on ne comprend rien à la vie. Hein.
Vous levez ce que vous voulez, c'est ça que vous m'avez dit ?
Oui, ça me donne une gants. Ouais. C'est peut-être l'expérience ou le milieu qui veut ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, toutefois que j'étais bien sapé et tout, comme on dit, on fait carpette, on n'aime rien. Et puis, toutes les aventures que j'ai eues... Mes femmes les ont élevées avec mon camion, tout. Mes trois femmes.
Vos trois femmes, vous les avez eues avec le camion?
Oui,
on le dit. C'est-à-dire, chaque fois que...
Ils élevaient à chaque fois avec mon camion, même vous avez ma gueule pas rassée. C'est vrai en plus. C'est tout à fait la vérité, voilà quoi. Je suis un peu chauve, moi ça m'amuse. J'ai des amis là qui font la dépression parce qu'ils perdent leurs cheveux, moi je rigole.
Oh, à peine, franchement, à peine. Hein.
Oui, enfin si. Et puis, non, on me définit, bon, je suis ordinaire, mais c'est le charme. Vous avez des gens moches qui ont beaucoup de charme, et puis là je suis un petit peu enrobé en ce moment, mais bon, enfin, mais c'est un petit peu régime parce que là je passe, quoi. Faut pas non plus faire attention. Pour... Oui.
Mais c'est vrai que c'est pas évident de vous imaginer en blouse noircie, on va dire. On va pas dire sale, on va dire noircie. Pas coiffé, pas rasé.
Mais c'est comme ça qu'on l'élève.
Hein?
C'est comme ça qu'on l'élève, parce que leur mari, il passe maintenant une heure dans la salle d'eau, une heure le soir. En plus, Mathieu Dutton, elles sont mal baisées, faut parler clairement. Alors, elle veut goûter autre chose.
Vous pensez systématiquement qu'elles sont mal, comme vous dites?
C'est normal. En France, il y a 7 femmes sur 10 qui sont mal baisées, ça, il faut le savoir, ça. Il n'y a pas besoin de lire Union, lui, ce bouquin-là.
Mais d'où vous sortez vos chiffres?
Parce que je le sais, c'est des statistiques officielles des rencontres que j'ai faites. Vous avez des très belles femmes qui n'ont pas d'amis ou pas de rapport. C'est monnaie courante. Ça. Plus elles sont belles, plus c'est compliqué à aborder. On n'ose pas, on est tous timides. Et finalement, plus elles sont seules, et plus elles se font chier, et plus elles cherchent un mec normal pour faire joujou. Des filles qui sont mal dans leur peau, quoi. Ils passent leur temps à faire du jogging, du sport, et puis on sent qu'il y a un truc qui ne colle pas, quoi. Une femme, en général, vous mettez 5 mois avant de faire joujou avec. Si vous faites joujou avant, c'est pas bon, c'est parce que ça suit pas. Une fois qu'elle est en confiance, ça tombe comme une mouche un soir, ça tombe comme une mouche. Non, mais c'est vrai.
Ouais. Mais c'est marrant parce que vous dites aussi que vous avez attendu 21 ans pour connaître une femme.
Parce que j'étais dans la milieu agricole, comment dirais-je, tout ce qu'il y a plus. Comment dirais-je, pas austère, enfin, bridé, voilà le terme. J'étais élevé dans un milieu clérical, hein, où le clergé était omniprésent. Donc, j'allais à la messe tous les dimanches, et puis c'était masse sortie. En rentrant de la messe, on allait à la petite messe le matin à 8h30 parce que la grande messe à 11h, on a perdu du temps pour travailler, donc je bossais tout le temps. Et puis après j'étais à l'armée dans un milieu assez strict. Et donc je suis rentré de l'armée, j'ai commencé à fréquenter les clubs hippiques, ça m'a débridé entre guillemets quoi. Mais bon, évidemment, il y a des gens qui ont des rapports à 15-16 ans et tout, mais ça n'a pas été mon cas. La bonne bourge là qui se fait chier dans la baraque, vous arrivez 9 chances sur 10 pour que ça finisse au plus marre. Hein. Je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est pas marrant tous les jours, c'est comme ça.
C'est pas marrant tous les jours.
Non, il ne faut pas plaisanter. Non, il y a des jours, on n'a pas la tête à ça. On est tous pareils, on a tous nos soucis. Hein.
Ouais.
Moi, le premier, ce qu'il faut comme souci, avec mes délais et tout. Donc finalement, je ne fais même pas le tiers de ce que je pourrais faire. Même pas. Et puis, bon, c'est bien beau, les belles femmes siliconées, mais c'est pas ça qui fait manger, c'est pas ça qui fait le lit. Hein.
Ah ouais.
Alors, ça va 5 minutes, tout ça, mais... On aime bien rentrer le soir, et vu qu'il y a à manger et à boire, il l'y fait, quoi.
Ah, les femmes blondes siliconées, elles ne font pas le ménage, d'accord.
Bon, c'est du rêve, ça, mais tous les jours, quand il faut aller tous les jours au restaurant, où j'ai connu ça, j'ai vécu 3 ans comme ça, où on passait notre temps au restaurant, entre l'onglerie, les UV, et puis, bon, ça va 5 minutes, mais on s'en lasse, quoi. On s'en lasse.
Mais ça a dû vous coûter une fortune en plus.
Bon, fortune, non, mais enfin bon, ça dépend ce qu'on appelle fortune, quoi. Quand vous voyez que ça coûte plus que ça rapporte, faut savoir s'arrêter, quoi.
Et comment. Enfin, plus que ça rapporte, oui.
Bah non, on vend un blinguer, mais bon. Puis maintenant, je suis devenu sage, donc encore une fois, donc je me suis calmé. Oui. Mais bon, j'ai une vie sexuelle, tout ce qui est plus ordinaire. J'aime bien les choses simples. Moi, j'aime bien faire joujou dans un lit, hein. Un beau lit bien douillé, que de faire joujou dans une cage, mais chacun sait son truc, hein.
Mais vous avez un petit peu essayé votre matériel quand même, non?
Oui, c'est la croix, une fellation, c'était bien fait, là, c'était sympa, ouais. Avec une belle dame, on pouvait demander guère mieux.
Pourquoi vous êtes calmé?
Bon, parce que ça apporte rien de spécial, rien de plus, à part des soucis, des emmerdes. En plus, quoi, alors j'ai pas de grosses emmerdes, des soucis. Puis ça va bien comme ça. Hein. Ça va bien comme ça.
Et je peux vous demander avec quel genre de femme vous êtes casé?
Ah, une femme très stricte. Tout ce qu'il y a de plus strict. Une femme de grande famille. D'origine noble. Mais bon, je te dis par mon charme et ma gentillesse, puis mon honnêteté, quoi. Je suis arrivé bêtement faire un dépannage pour une serrure. Je voulais même pas y aller, m'a appelé 4-5 fois pour faire un dépannage d'une serrure qui était bloquée. Mais j'ai mis plusieurs mois à séduire madame.
Et elle vous a gardé, quoi?
Elle m'a gardé. Parce que je suis tout ce qui est plus gentil et sérieux. Attentionné, quoi.
Oui, mais attentionné.
Regardez les détails. C'est la voiture le matin, vous vérifiez ses pneus sont assez gonflés. Et puis, c'est son côté détaillé. Une femme ne regarde jamais le niveau d'une voiture, ne fait jamais rien, ne regarde jamais ça, tout ça.
Et alors ?
Bon, moi, je surveille tout ça, tout ce qui est l'environnement.
Vous surveillez le niveau du niveau d'huile de sa voiture, voilà. Et vous pensez que c'est bon
pour... C'est des détails, mais c'est un détail parmi tant d'autres, quoi. Ouais. Des détails, comme les bouteilles de gaz qui tombent un peu de dimanche, moi, j'évite, enfin, toutes ces conneries-là, quoi.
Et vous pensez que c'est pour ça qu'elle vous aime ?
Ah bah, c'est une multitude, un ensemble.
Et vous gardez votre blouse de forgeron, hein ?
Ah non, quand je rentre chez madame, je suis rasé, bien habillé, on va dîner au restaurant, et c'est comment et vous ?
Vous voyez ?
Oui, en général, oui. À la base, je suis un homme des bois, j'aime mieux être dans mon environnement avec mon chien et les juments, et puis ma femme le dimanche, et puis voilà, ça va bien comme ça. Or, j'ai jamais eu le temps de me marier, je pense que ça va venir un jour, peut-être, faut pas désespérer.
Pas une question de temps quand même, hein ?
Non, mais ça, je sais pas ce que l'avenir me réserve, ça... Enfin voilà, c'est une vie... pas de patachon, mais une vie un peu compliquée, enfin, une vie d'aventurier. Mais bon.
Mais vous regrettez pas, quoi ?
Ah, je regrette rien. Rien du tout.
C'était un reportage d'Anne Rioux, première diffusion le 28 octobre 2002. Et un conseil de là-bas pour le week-end des Parisiens. Ce dimanche 11 avril, Bernard Guénier, héros du documentaire Bernard, ni Dieu ni chaussettes, viendra présenter le film en compagnie du réalisateur Pascal Boucher. Ce sera à 14h45 au cinéma L'Espace Saint-Michel, 7 place Saint-Michel dans le 5e arrondissement de Paris. Mais vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis. À la technique, Cédrine Lalanne et Christian Thibaudeau, réalisation Goyenne Guyenne et Raphaël Moutherde, assistante Agnès Lebot, chef du répondeur Céline Rouzet. Le numéro du répondeur de Là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37.
D'une catastrophe à l'autre, de la Nouvelle-Orléans à Haïti, qu'apprenons-nous pour construire l'avenir avec tous ? ATD Carmont des Radio France ouvre le débat ce soir au studio 104 de la Maison de Radio France de 18h à 20h. Venez participer à cette rencontre animée par Claire Hédon en présence d'Eugène Brandt, délégué général ATD Carmont et Jane Birkin, invitée exceptionnelle. En multiplex avec les maisons d'ATD Carmont à Port-au-Prince et la Nouvelle-Orléans. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter, 16h. Vous retrouvez Angélique Boin pour les informations.
Aux États-Unis, les recherches pour retrouver les 4 mineurs toujours disparus lors d'un coup de grisou dans une mine de l'État de Virginie-Occidentale ont une nouvelle fois été suspendues en raison cette fois d'un incendie. 4 jours après l'accident qui a tué 25 ouvriers, l'espoir de les retrouver vivants est très faible. Et la polémique enfle sur la responsabilité de l'entreprise qui exploite ce site. La liste des manquements à la sécurité est en effet éloquente, Fabienne Saintès.
Des mineurs poussés à la productivité, des manquements à la sécurité accumulés, derrière le deuil de tout un État qui ne vit que du charbon, il y a aussi un monde du silence qui peine à se briser. Des chiffres révélés par les services des inspections minières donnent le tournis. 1342 infractions à la sécurité ces 5 dernières années. 900 000 dollars d'amende pour la seule année 2009. Mauvaise ventilation du méthane, accumulation de poussière de charbon combustible, matériel anti-incendie inadapté. Le patron de Massé Énergie, à qui appartient la mine, s'est contenté de dire que les accidents étaient malheureusement une part inévitable de l'extraction du charbon. La cause de cet accident-là, on ne la connaît pas encore, mais des inspecteurs qui ne sont pas de Virginie-Occidentale, donc neutres, sont attendus sur le site. L'organisme en charge de la sécurité des mines est accusé par certains experts de n'avoir jamais cherché à fermer le site. En réalité, les efforts pour augmenter les pouvoirs de cette agence ont été stoppés net par le Congrès après un accident en 2006. Une loi qui devait permettre d'arrêter la production en cas de non-réparation des infractions a été laissée pour morte lorsque George Bush a menacé d'y poser son veto. À Washington, Fabienne Saintès, France Inter.
Anders Ekström a été extradé vers la Pologne. Aujourd'hui, l'ancien chef du parti d'extrême droite suédois est poursuivi pour avoir commandité le vol du panneau qui surplombe l'entrée de l'ancien camp de concentration d'Auschwitz. En Afrique du Sud, des milliers de fermiers blancs d'extrême droite se sont rassemblés dans et devant le temple réformé de Ventersdorp. Ils assistent sous très haute surveillance policière aux funérailles du leader radical Eugène Terre Blanche. Une bannière déployée accuse les Noirs de vouloir jeter les Blancs hors du pays. Les autorités craignent que cet assassinat ne favorise la reprise d'affrontements entre communautés. L'actualité en France, c'est tout d'abord les prévisions de trafic à la SNCF pour ce week-end de chassé-croisée des vacanciers. Des difficultés vont persister dans la région sud-est, au-delà de Lyon. Il faut compter un train sur deux et deux sur trois vers Marseille, entre un train sur deux et deux sur trois, pardon, vers les villes de Marseille, Nice, Montpellier, Grenoble et les Alpes. 78% des TER seront assurés, 75% des intercités, 65% des TOS. Il n'y aura qu'un seul TGV sur deux sur les lignes de province à province, mais ailleurs, le trafic devrait être normal selon la direction. France Télécom dément avoir mené une politique de harcèlement vers ses salariés. Le groupe n'a rien à redouter de l'ouverture d'une information judiciaire, a déclaré lors d'un point de presse son avocate, Maître Chémarin. Mieux, cette enquête, dit-elle, va permettre de replacer les différents suicides dans leur contexte. La police de Mulhouse a enfin mis la main sur le sérieux dégradeur de vélo, un ancien salarié de l'entreprise Vélocité qui voulait se venger, semble-t-il, de son licenciement. Depuis août dernier, il crevait des pneus la nuit ou déversait du ketchup sur les selles. Il sera jugé pour 308 pneus crevés et 179 vélos dégradés.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Je vous attends pour des enregistrements en public aujourd'hui dans le Loiret à Ferrières-en-Gâtinais, rendez-vous à 18h30, et demain en Seine-et-Marne à Samoin-sur-Seine à 14h30. Les sélections se font sur place à la même heure.
France Inter, partenaire de l'exposition Crimes et Châtiments au musée d'Orsay jusqu'au 27 juin. Plus de 400 œuvres qui disent le trouble, l'horreur, le dégoût, la révolte et la fascination qu'ont suscité le crime et son châtiment suprême, la peine de mort. Retrouvez l'exposition Crimes et Châtiments dans les émissions de France Inter.
France Inter. La différence.
Il est 16h04 et je vous laisse en compagnie de Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Allez, ça fait toujours du bien, la rigueur, la force, la concision du grand Jean-Sébastien Bach dans l'enregistrement tout récent et admirable de Chu Xiaomei. Voici le deuxième prélude du clavier bien tempéré. Oui, c'est très joli, mais ça, c'est le premier, mais on va retrouver la plage qu'il faut, la plage 3. On a déjà passé celui-là l'autre jour. L'autre, il est plus sombre, il est plus vif, un peu plus violent, vous allez entendre. Thank you. Avec une belle remontée vers la lumière, le deuxième prélude en ut mineur, le premier étant en ut majeur, de Jean-Sébastien Bach, interprété par Chu Xiaomei, un très très beau disque. Ce qui est touchant, c'est que cette pianiste chinoise a été un peu sauvée spirituellement, puisque comme elle a été internée dans des camps de travail dans son pays, elle a été sauvée parce qu'elle recopiait de mémoire la musique de Jean-Sébastien Bach. Ça lui a tenu compagnie et ça lui a permis de garder le cerveau quand même bien clair, et puis de garder l'espérance surtout. Alors, un autre enregistrement tout récent, là, c'est Camille Saint-Saëns qui connaissait son Bach par cœur, qui était un monsieur extrêmement sérieux, une vieille barbe, a-t-on dit même, et on publie une intégrale de la musique de chambre avec instruments avant, ce sont les solistes de l'Orchestre de Paris, et c'est très sympathique, je ne vais pas tout passer aujourd'hui, mais enfin quand même, par exemple, l'éléphant du Carnaval des Animaux, d'habitude c'est une contrebasse qu'on entend, là c'est une transcription pour contrebasson, vous allez entendre que c'est savoureux aussi. L'éléphant du Carnaval des Animaux, il arrivait à sourire, Saint-Saëns, bien sûr, c'était un pince sans rire. Et...